12h30, 13h.
Entrez sans frapper sur la première.
Notre invité aujourd'hui dans Entrez sans frapper est Emmanuel Lascoux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jérôme.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes docteur en grec ancien, spécialiste d'Homère et de la diction antique. Vous êtes aussi membre du Centre de recherche en littérature comparée à Paris Sorbonne. Et c'est vous, Emmanuel, qui livrez cette nouvelle traduction de l'Odyssée d'Homère chez POL, excellente maison d'édition. On va tenter de comprendre quel fut votre travail et en quoi il était nécessaire pour vous de traduire Homère. On va arriver évidemment largement sur votre traduction, mais d'abord, je pense que pour tout le monde et nous aussi, il va falloir un petit peu replacer cette histoire. Et la première question, c'est la question la plus piège évidemment qui soit, c'est qui était Homère ? Parce qu'Homère, évidemment, on n'est absolument pas sûr que ce soit une personne physique, comme on dit aujourd'hui. C'est probablement un personnage conceptuel inventé, parce qu'il est extrêmement peu probable que l'Iliade et l'Odyssée aient été écrits par un homme à une époque. On rappelle que la date de création de l'Iliade et l'Odyssée, ce serait le 8e siècle avant Jésus-Christ, en tout cas entre 850 et 750 avant Jésus-Christ. Mais si je vous pose la question de savoir qui était Homère, que me dites-vous ?
Alors, je pourrais vous faire plusieurs réponses. Je vais d'abord reprendre la réponse de mon maître et ami Pierre Judet de Lacombe, qui a sorti une biographie d'Homère, ce qui est un projet encore plus paradoxal que de retraduire l'Odyssée, vous en conviendrez. Et cette biographie d'Homère, lui, il en vient à l'idée qu'Homère, c'est un mythe, mais c'est un mythe au sens grec, c'est un mythos. C'est-à-dire, Homère, c'est une identité, mais une identité qui regroupe sans doute quantité d'autres identités. C'est vraiment la particularité des Grecs que de ne pas croire à ce que nous, modernes, nous appelons le sujet individuel. Et donc, moi, je dirais, Homère, c'est un logo. Oui, c'est une marque, mais ça n'empêche pas, quand on pense à Homère, quand on le lit, quand on l'aime, comme moi et tant d'autres avant moi et après, depuis sa plus tendre enfance, ça n'empêche pas que, comme pour un être aimé, il faut le fantasmer comme quelqu'un. Oui. On ne peut aimer quand même que quelqu'un. Et je pense que, déjà, les Grecs savaient bien qu'il fallait le fantasmer. Et c'est pour ça qu'ils nous ont proposé un nom. Alors, un nom qui a quantité de possibilités d'étymologie. Est-ce que Homère, c'est celui qui rassemble ? Est-ce que c'est l'esclave qui aurait été pris, le prisonnier, etc. Voilà. Bon. Donc, moi, j'ai besoin, comme tout le monde, de fantasmer quelqu'un.
Ouais. On fantasme quelqu'un, même si on sait que, c'est ça l'histoire de Homère, finalement, dont on rappelle qu'en grec ancien, il voudrait dire otage, celui qui est obligé de suivre. Alors, Homère, ce fameux Homère, donc, puisque nous allons aussi le fantasmer, parce que c'est très agréable de le fantasmer, on rappelle que c'est un auteur important, c'est probablement l'un des plus importants de l'histoire de la littérature mondiale, grec d'abord, parce que il représente l'Iliade et l'Odyssée, qui sont les deux pierres angulaires de la grande littérature antique, et qui restent presque 3000 ans plus tard, je veux dire, puisque ce serait 800 avant Jésus-Christ, des pièces maîtresses de la littérature mondiale. Ces pièces maîtresses, elles sont au nombre de deux. On a l'Iliade d'un côté, l'Odyssée de l'autre. On va venir évidemment à l'Odyssée et au fait, et à votre traduction, plus particulièrement Emmanuel, mais d'abord peut-être en quelques mots, que raconte le premier livre, l'Iliade ?
Alors, si vous me permettez, je vais juste essayer de rectifier de toutes petites choses, mais en termes de vocabulaire. Mais encore une fois, ce n'est pas pour faire le précieux ridicule. Vous avez parlé de livre, et le paradoxe, c'est que le livre, c'est une invention postérieure à Homère. Ça n'est pas un livre. Et Homère n'est pas un écrivain, puisqu'on ne sait même pas si ses poèmes ont été, rassemblés. On sait de toute façon qu'à l'origine, c'est de la tradition orale, comme dans toutes les civilisations premières. Voilà. Homère, ce sont des aèdes, des chanteurs, compositeurs professionnels, des sortes de griots africains, par exemple, qui vont de ville en ville et qui chantent, et qui vont de cours en cours et qui chantent ces poèmes. Et donc, Homère, pour nous, c'est le début de ce qu'on appelle la littérature. Mais Homère lui-même est une fin. Alors, je ne vais pas m'égarer, j'ai bien compris votre question. moi, j'ai l'habitude, pour expliquer ça très rapidement, y compris devant des étudiants ou dans des causeries sur Homère, moi, ce qui m'intéresse chez les Grecs, c'est la notion d'espace. Eh bien, il faut imaginer que l'Iliade, c'est le lieu de tous les hommes. C'est un huis clos dans la plaine de Troie. On est là, ça fait 10 ans qu'on attend, on essaye de prendre Troie. Et l'Iliade, c'est un petit peu avant la fin de la chute de Troie. Je rappelle qu'Homère ne raconte pas la chute de Troie. Ce qui est extraordinaire dans le scénario de l'Iliade, C'est que ça prend un mois et demi, deux mois, raconté sur 16 000 vers. C'est long, hein, 16 000 vers. Mm-hmm. Ça fait, si vous les récitez à la suite, il vous faut bien, 30 heures, 35 heures. On l'a fait, hein, avec une bande de fous comme moi. Il y a des fous qui font ça. Non. On le fait, d'ailleurs, on le fait un peu régulièrement. Donc, l'Iliade, c'est le lieu de tous les hommes. C'est pour ça que ça s'appelle l'Iliade. C'est le poème d'Ilion, la citadelle de Troie. Et là, évidemment, il y a une histoire dans l'Iliade. C'est une micro-histoire pour le mythe. C'est l'engueulade, c'est la colère, c'est la première grève de l'histoire de l'humanité occidentale, puisqu'Achille décide de faire grève.
Et ouais, il décide envoie de quitter Agamemnon. La plaine. Hein.
Ouais. Oui, parce que non, il reste dans la plaine. Enfin, il va à ses vaisseaux. Ouais. Agamemnon l'a privé de sa part d'honneur, qui était une captive, sous prétexte que lui a dû rendre la sienne au prêtre d'Apollon, parce qu'Apollon s'était fâché. Bon, et donc là, par un jeu de chaises musicales, Agamemnon, le roi des rois, à qui on doit respect, bien sûr, puisque c'est le chef de l'expédition, eh bien, va commettre un acte très injuste, et Achille est à deux doigts de dégainer son épée, tout simplement, au début du chant de l'Iliade. Il va dégainer son épée pour le tuer. Et là, heureusement, Athéna tombe pile, comme toujours les dieux du ciel, elle lui rengaine son épée, et elle lui dit, écoute, non, pas de geste, mais vas-y, défoule-toi en parole. Donc, il l'insulte, c'est un tombereau d'insultes. Et maintenant, je te soutiens, fais ce que tu veux. Et Achille dit, bah, qu'ils aillent se faire voir, hein, les Achaïens. Puis, de toute façon, il rajoute toujours, Achille, c'est le premier gréviste antimilitariste, puisqu'il dit, moi, les Troyens ne m'ont rien fait. Je suis venu là, un petit peu comme un GI à certains moments, ou voilà, dans d'autres grandes guerres, voilà, ou poilu.
Je ne l'ai pas choisi, là,
j'ai pas choisi vraiment, etc. Et donc Achille va faire la grève. Sauf que si Achille fait la grève, il n'y a pas d'Iliade. Il faut bien que Troie tombe d'une certaine manière. Et pour ça, l'Iliade, c'est autour de tous ces personnages un duel entre Achille et Hector. Hector, le défenseur de Troie, voilà. Et comment ça va tomber? Eh bien, c'est uniquement pour une raison personnelle, c'est parce que les dieux ont calculé que pour faire revenir le gréviste, pour faire arrêter la grève, c'est pas les arguments qui vont marcher, les cadeaux, Agamemnon vient demander pardon, il envoie une ambassade avec Ulysse, ses meilleurs amis, je t'en supplie, Achille revient. Non, c'est pas ça. C'est le meilleur ami d'Achille, Patrocle, qui est allé avec lui à la guerre. Ils ont une espèce d'entente mutuelle depuis très longtemps, ils sont un peu ils doivent se protéger l'un l'autre à la guerre, c'est ce qu'a dit le Pélée, le vieux père à Achille, hein. Vous tiendrez vous serrerez les rangs tous les deux et vous reviendrez vivant s'il vous plaît. Et là Patrocle, ben, il va mourir parce qu'il a pitié lui, et il dit à Achille, écoute, on peut pas les laisser comme ça, nos malheureux Grecs, ils vont tous se faire embrocher, ça va être épouvantable, et puis ensuite ils vont nous brûler les vaisseaux, on pourra même pas rentrer. Autrement dit, Patrocle va, se fait tuer, et c'est simplement la douleur et la rage de vengeance de cette mort de son ami qui ramène Achille au combat et qui va finalement tuer Hector au champ 22, et il y en a 24. Mais la fin de l'Iliade, donc le scénario de l'Iliade, c'est un micro-bout de mythe hyper étendu sur 24 chants, sur 16 000 vers. Voilà.
Ça, c'est l'Iliade. Tiens, la vengeance. L'Odyssée, c'est quoi le sujet? Tiens, la vengeance aussi. Puisque l'Odyssée, c'est quoi? Ça va être le retour d'Ulysse chez lui en Ithaque pour retrouver Pénélope, sa femme, et Télémaque, son fils. Et ça va être en trois chants, hein, la télémachie tout d'abord. Ensuite, il va y avoir les confessions d'Ulysse sur son retour et notamment aussi sur la guerre de Troie. Et puis, sa fameuse vengeance. Est-ce que vous pouvez aussi bien, s'il vous plaît, encore nous raconter l'Odyssée cette fois, et on en viendra ensuite à votre traduction.
Alors j'ai dit l'Iliade, c'est le lieu de tous les hommes, c'est pour ça que ça s'appelle, le titre c'est un lieu, l'Odyssée c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'on pense, que les Grecs nous ont fait croire, parce que ça on n'est pas sûr, que l'Odyssée a été composée après, puisque ça raconte le retour des quelques héros qui ont pu rentrer quand même, parce que beaucoup sont restés sur le tapis là-bas. Et il y en a qui se sont perdus, etc. Donc retour d'Ulysse chez lui. Et l'Odyssée, ça s'appelle Odyssée parce que c'est l'homme de tous les lieux, c'est l'inverse. Il y a un héros qui va parcourir une sorte de monde entier pour les anciens, y compris un monde dont on n'a toujours pas fait le tour, puisque vous savez qu'il y a des débats, est-ce que les errances d'Ulysse, les sirènes qui arrivent d'ici là, tous les lieux où il va sont des lieux imaginaires? Est-ce que ça décrit des lieux réels à l'intérieur de la Méditerranée? Ça, c'est ce que pensait Victor Bérard, hein, le grand helléniste, qui était, lui, allé au début du XXe siècle avec son bateau à voile pour essayer, avec les Indiens, en prenant l'Odyssée comme un manuel d'instruction nautique. Hein, et il a trouvé des choses. Ou alors, il y a la thèse d'Alain Bombard, vous savez, Bombard, le navigateur naufragé volontaire, etc. Et Bombard, il défend avec d'autres l'idée que c'est hors Méditerranée. C'est pas possible, il dit, l'Odyssée, ça peut pas se situer, c'est forcément des légendes et des traces de navigateurs. Donc voilà, Ulysse rentre chez lui, et donc, il va bien sûr, mettre beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dieu qui est le tonton d'Athéna,
eh oui.
et qui est le frère de Zeus, qui s'appelle Poséidon, mm-hmm. hein, le dieu de la mer. Je rappelle, et ça je le rappelle, mais ça, les hellénistes, les gens qui connaissent savent ça, mais aussi pour tout le monde, mm-hmm. que Poséidon, à l'origine, à l'époque des Indo-Européens, avant que ceux qu'on appelle les Grecs s'installent dans la péninsule hellénique, les Grecs sont issus de peuples qui vivaient au fond des terres, hein, dans l'Asie centrale, mm-hmm. ces Indo-Européens. Et là, ils ne connaissaient pas la mer. Et je rappelle qu'en grec, le mot thalassa, le fameux mot que tout le monde connaît en pensant que c'est un mot grec, n'est pas un mot grec. Thalassa n'est pas un mot grec.
Ah.
Bon, ça c'était mon scoop. Thalassa n'est pas un mot grec, en revanche, Ulysse est bien un héros grec. Si je dis ça, c'est parce que Poséidon est un drôle de dieu. C'est un dieu qui, à l'origine, chez les Indo-Européens, a régné sur les terres. C'est le dieu du cheval. C'est pour ça qu'on fait une offrande du cheval.
D'accord.
En revanche... Ensuite, quand les Grecs sont devenus des Grecs et sont devenus surtout des marins au bord de la mer, mm-hmm. là, il est devenu le dieu de la mer.
Okay.
Donc Poséidon, il est toujours un peu embêté, parce qu'il il règne sur un territoire qui est un peu partagé, la terre et la mer.
Okay.
Et là, il en veut terriblement à Ulysse, parce qu'il se trouve que, vous le savez bien, dans les épisodes de son errance, racontés au Chant Neuf, Ulysse va se trouver dans la grotte du Cyclope, mm-hmm. par sa faute, dit Homère, parce que là, pour le coup, c'est pas la faute de la bêtise des compagnons, c'est lui qui a voulu tenter le coup et puis savoir s'il ne pourrait pas gratter un petit cadeau de... Puis pas sa curiosité. Ulysse veut rentrer chez lui, mais comme disait déjà Giono dans son ouvrage sur la naissance de l'Odyssée, il veut rentrer chez lui et il ne veut pas. Alors moi, je ne pense pas que Giono ait raison. Je pense qu'il veut rentrer chez lui, absolument. Mais il est aussi très curieux, c'est un Grec. Et les Grecs, c'est des gens curieux, c'est des gens qui ont inventé ensuite la philosophie, c'est des gens qui pensent, qui veulent confronter leurs expériences. Et donc, Il va chez le Cyclope, et là, vous savez bien comment, par la ruse, avec ses compagnons, il va lui crever l'œil. Or, le Cyclope, c'est la créature de Poséidon qui n'a pas du tout apprécié. Voilà. Donc, Ulysse va être poursuivi pour ça, et il va finir par arriver à rentrer, et grâce à Athéna, bien sûr, par organiser la fameuse vengeance, qu'on appelle en grec la mnestérophonie, c'est-à-dire le massacre des prétendants.
Ouais,
voilà. De ceux qui sont à
Pénélope.
Hein. Voilà. Mais c'est normal qu'il y ait des prétendants à Pénélope, puisque la règle veut que si le roi est mort ou il n'est pas rentré de la guerre, c'est normal que la reine se remarie. Mm-hmm. On a vite fait de dire que les prétendants... Parce que l'Odyssée les montre comme ça, un peu méchant. Hein. Mais en réalité, c'est... Bon.
Et puis 10 ans, c'est long.
C'est long. Et puis vous rajoutez 10 ans de guerre.
10 ans de guerre, ça fait 20 ans, tout à fait.
Voilà. Et surtout, ces prétendants sont pas, ils font pas les choses dans les règles. Ils harcèlent, ils méprisent le petit Télémaque, le pauvre Laërte. Ulysse a encore son père qui vit comme un clochard dans sa campagne, désespéré. La mère est morte et vous savez qu'Ulysse va la rencontrer. Mm-hmm. C'est une rencontre extrêmement poignante au champ 11, puisqu'Ulysse va devoir aussi aller aux enfers. Alors là, pour l'instant, on n'a pas trouvé où c'était les enfers, à moins que ce soit là où on vit nous aujourd'hui. Mais Ulysse va aux enfers, il va rencontrer sa mère, Anticlée. C'est la seule qui manque sur le tableau de famille de l'Odyssée. Et puis, comme disait Aristote, il n'y a pas de bonne tragédie sans reconnaissance. Et comme dans Édipe Roi, il faut qu'il y ait des reconnaissances pour émouvoir le public athénien, eh bien l'Odyssée est faite d'une série calculée dans un certain ordre de reconnaissance. Ulysse se fait reconnaître d'abord à son fils, il dit « c'est moi, je suis Ulysse ». Alors avant, chez les Phéaciens, il a dit « je suis Ulysse ». Mais à son fils... Ensuite, il va se faire reconnaître progressivement à tous les membres de sa famille, mais à l'avant-dernier moment, à sa femme. Parce qu'il doit organiser, comme un polar, alors à huis clos, cette fois, dans le palais, il doit organiser, déguisé en mendiant, il y a l'épreuve de l'arc, etc., il doit organiser la reprise de possession de son domaine, qui est parasité.
Ça, c'est l'histoire de l'Odyssée que vous avez décidé de retenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Odyssée, elle est traduite en français depuis un petit bout de temps, hein, maintenant, d'après mes informations, mais vous savez ça bien mieux que moi, Emmanuel, les premières traductions en français dateraient de la fin du XVIe siècle, et il y en a eu grand nombre depuis, et sous très différentes formes. Vous pouvez un petit peu nous faire le portrait des traductions de l'Odyssée. Et ce qui va nous donner probablement en blanc la raison pour laquelle vous en avez ajouté une.
Alors, ça commencerait, d'après ce qu'on pense, avec Jacques Pelletier-Dumont, hein, qui est un humaniste, hein, un peu plus âgé que Ronsard et Du Bellay, c'était d'ailleurs leur aîné. Et en 1547, notre bon roi François Ier, hein, qui a fait venir à sa cour les peintres italiens, etc., et qui est le modèle du roi de la Renaissance et de l'humanisme, hein, qui lui-même, comme tous les rois de France à l'époque, n'était pas très très instruit et cultivé, mais qui lui va rattraper sur le tard avec des cours du soir. Hein, là, il va vraiment travailler. François Ier, il a, eh bien, c'est pour lui, avant sa mort, Jacques Pelletier-Dumont va lui offrir, en 1547, quelques chants de l'Odyssée. Donc, la première fois que l'Odyssée arrive en français, c'est là. Alors, au Moyen-Âge, il y a eu un grand poète et auteur de grands gestes médiévaux qui s'appelle Benoît de Sainte-Maure, qui avait écrit un Ulixès, un Ulysse. Mais comme beaucoup de choses du Moyen-Âge, c'est pas une Odyssée, c'est une sorte de grand fatras avec plein de choses. Donc voilà, alors il y a Pelletier-Dumont. Et ensuite, ça va se succéder. Alors, je vais pas tous vous les énumérer. Là, je vous renvoie à mon introduction, mais 1604, 1619, 1716, Anne d'Acier, la première femme helléniste classique, du XVIIe, fin du XVIIe siècle, qui a traduit une Iliade et une Odyssée, très belle, très pure, après Racine, hein, dans un style presque très pascalien ou racinien. Et puis, après, vous avez une Odyssée du... les romantiques vont beaucoup, beaucoup reprendre l'Odyssée. Si vous prenez un auteur comme Chateaubriand, lui, il n'a pas retraduit l'Odyssée, mais il se trouve que je suis un peu dans les mémoires d'outre-tombe actuellement. Eh bien, Chateaubriand, lui, c'est un très bon homérisant. Et quand il est chez les Indiens d'Amérique, quand il est en ambassade à Rome, partout, poursuivi par Napoléon Haute, il a son Homère dans sa poche et il en cite des bouts et il traduit. Donc, il faut aussi voir qu'il y a des... C'est pas pareil de traduire aujourd'hui Homère et de le traduire par le passé.
Eh oui.
Nous, quand on traduit aujourd'hui Homère, on est un peu dans la position pour François Ier. C'est-à-dire de gens qui ne savent plus grec. Alors que par le passé, les générations qui comme dit, vous rappelez la dédicace de l'enfant de Valès à tous ceux qui nourris de grec et de latin sont morts de faim, ont bouffé du grec et du latin matin, midi et soir, ça ne veut pas dire qu'on avait un métier à manger. Voilà, donc il y a des traductions très belles, très célèbres. Alors bien sûr, on en arrive, je vous disais, à Victor Bérard en 1924. Ça, il a mis des années, il l'a refait très souvent, parce que Bérard, c'est la synthèse, si vous voulez, entre la philologie française de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Grande traduction. Alors lui, quel parti il a pris? Il a pris un parti de la rythmée. C'est une prose rythmée comme de l'Alexandrin.
Okay. Voilà.
Hein et puis, celle qui fait autorité aujourd'hui en France, c'est celle de Philippe Jacotet, du grand poète Jacotet, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui date de 1955. Et il y en a eu d'autres depuis, deux traductions françaises, toutes les traductions sont belles. Il n'y a pas de traduction qui ne soit pas intéressante. Celle de Frédéric Mugler en 91 et celle de Louis Bardollet en 95. Voilà. Celle de Jacotet se veut traduction par un poète. Voilà.
On vient à votre traduction dans quelques instants, et puis on va continuer de parler d'Ulysse, d'Achille, d'Agamemnon, de Hector, de l'Odyssée de manière générale. Est-ce que ça nous raconte aussi aujourd'hui cette Odyssée, parce que c'est quand même diablement moderne. On continue de parler tout ça avec vous, Emmanuel, dans quelques instants.
La première. Entrée sans frapper. Podcast La Première.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle.
Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire, me voilà.
Revenu d'exil de l'île d'Elbe, Napoléon remonte sur Paris. C'est le début des 100 jours. Toute l'Europe le déclare hors la loi et décide d'en finir avec lui une fois pour toutes. Tout se joue à Waterloo. Forcé d'abdiquer une deuxième fois, Napoléon, déporté à Sainte-Hélène, décide de façonner sa légende.
C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle, une série en 5 épisodes, disponible sur la page podcast du site lapremière.be et sur Ovio.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, réinvente le numéro 1 de l'antitache en pharmacie. Le sérum Vino Perfect corrige toutes les taches liées au soleil, aux cicatrices d'acné, aux masques de grossesse, à l'âge. Sa nouvelle formule est encore plus efficace.
Encore plus efficace?
Oui, c'est prouvé. La coloration des taches diminue de 63% dès un flacon. Et sur tous les types de peau, des plus clairs aux plus foncés, même les peaux sensibles.
Nouveau sérum Vino Perfect de Caudalie, numéro 1 des soins antitaches en pharmacie. Sur SciQ via PharmaOne à fin décembre 2020.
Une offre pareille, vous n'en laisserez pas une miette. Jusqu'à ce samedi chez Aldi, savourez le goût du pain sorti du four avec nos petites baguettes blanches en une plus une gratuite. Profitez-en!
Pour parler de performance, nous avons demandé l'avis d'Eden Hazard.
Non, la performance, elle était au rendez-vous. L'atmosphère était électrique, 100% électrique, excitante du début à la fin.
En tout cas, vous avez pris du plaisir sur le terrain.
Sur le terrain ? Non, là au volant.
Au volant de la Nissan Leaf 100% électrique. En ce moment, avec le pack 100% Zen, la Nissan Leaf est disponible à partir de 159€ par mois, chargeur à domicile offert, plus l'installation et 10 000 km d'électricité. Dernière mensualité de 8 345€. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
De 11h30 à 13h,
entrez sans frapper sur la première.
Notre invité est Emmanuel Lascoux, personnage, hein, puisqu'il s'amuse à lire avec ses amis l'intégrale de l'Odyssée. Ça dure 30 heures en grec ancien. C'est une occupation comme une autre, Emmanuel. Et ça oui. Me fascine, évidemment, et ça doit être absolument formidable à voir. Et vous avez, vous livrez une nouvelle traduction de l'Odyssée chez POL. Ben, Xavier, justement, vous aviez une question.
Ben oui, je voulais vous demander, Emmanuel Lascoux, pourquoi considère-t-on encore aujourd'hui l'Iliade et l'Odyssée d'Homère comme un récit fondateur, comme un acte de fondation de la littérature, et comment expliquez-vous qu'encore aujourd'hui, en 2021, ce récit parvient à ce point à traverser le temps ?
Je vais vous répondre par un vers, si vous voulez bien, le vers 343 du chant 15 de l'Odyssée. Je vais vous le dire en grec à ma manière, parce que moi, si j'ai voulu aussi retraduire, c'est parce que, avant de vouloir traduire, moi, j'essaye de retrouver la prononciation, oui. Même si là encore, c'est tout aussi fantasmatique que Homère lui-même. Mais je travaille sur le phrasé de la langue grecque antique, d'accord ? Le rythme, etc., parce que par ailleurs, je suis un peu musicien. Mm-hmm. Je vais vous dire ce vers et peut-être qu'il répond à votre question. C'est Ulysse qui discute avec Eumée. Eumée, c'est le vieux gardien de cochon, le porcher, le serviteur fidèle. Hein, et Ulysse, déguisé en mendiant, tout vieux, etc., il s'est réfugié dans sa cabane parce qu'Athéna lui a dit d'aller